Le désespéré, chapitre 59. Marche Noire aurait bien voulu pouvoir s'en aller. Il prévoyait trop les abominables heures qu'il allait passer. « Quel amas de voyous !» se disait-il consterné. « Il va falloir pourtant que je me mêle à tout ça, que je parle, que je mange aussi, que je fasse une trouée dans le dégoût dont ma bouche est pleine. » pour y enfourner les aliments qu'on va m'offrir. Il vit avec désespoir qu'il n'y avait pas devant lui un seul être avec lequel il pût échanger trois paroles sans laisser éclater son mépris. Un tel merle blanc n'était certes pas ce normalien blondasse et barbu, l'homme à l'œil qui verse, l'augural vicomte Nestor de Tinville, le doctrinaire épicurien de la grande presse, qui s'étalait là. On peut défier de mettre la main sur un cuistre plus exaspérant. Il est, à l'heure actuelle, un des types les plus accomplis de cette intolérable ventrée de journalistes oraculaires dont Prévost Paradol fut le prototype. Rien ne saurait s'accomplir dans le monde sans la volonté de Dieu, mais sous la réserve des considérants préalables du noble vicomte. Il est le vrai sage affermi sur une expérience de granit, par conséquent, dispensé de toute invention, de tout style et même de toute écriture. Il a pour lui la sagesse, rien que la sagesse. Il est celui qu'on ne trompe pas. La sagesse est son grand ressort. Si vous lui refusez la sagesse, vous l'assassinez. Quand les filandiers vulgaires ont pâli longtemps sur un écheveau, il laisse tomber, sereinement, une lourde sentence, et tout se débrouille. Il ne reste plus qu'à débobiner la lumière. Il a, comme tous les sages d'ailleurs, un respect infini pour la richesse et pour les riches, sans exception. La richesse est, à ses yeux, un critérium de justice, de vertu, d'aristocratie, peut-être aussi de virginité, car il parle souvent de virginité, sans qu'on sache pourquoi ce vocable lui est si cher. Il prononce que le premier devoir du riche est d'aimer le luxe, et que les crevants de misère, au lieu d'envier les gens qui s'amusent, les devraient bénir. « Que m'importe ? » écrivait-il à propos d'un roman naturaliste racontant les angoisses d'un malheureux expirant de faim. « J'ai une si bonne cuisinière !» La solennité stérile, la morgue constipée, la dureté basse de ce mulet de la chronique, avaient le don d'irriter au plus haut degré Marche Noire. Puis, il savait l'effarante ignominie de sa vie privée et la honte à faire beugler de son mariage. « Ne pourriez-vous, dit-il à Beauvivier qui vint à passer, me faire dîner sur une petite table séparée ?» ou m'envoyer simplement à la cuisine, je vous assure que je ferai de bon cœur la connaissance de vos domestiques. Mes convives vous dégoûtent donc terriblement? Vous êtes un fauve bien délicat. C'est pourtant le dessus du panier qu'on vous offre. Mais voyons, vous m'y faites penser. À côté de qui voulez-vous que je vous place? Ou plutôt, à côté de qui tenez-vous absolument à n'être pas? Vous m'aurez déjà à votre gauche. Mon voisinage vous répugne-t-il? Non. Qui mettrai-je maintenant à votre droite? Parlez, il est encore temps. » D'un regard circulaire, Marche Noire tria la chambrée. « Placez-moi donc à côté de ce loucheur, » répondit-il en désignant Octave Loriot dans la profondeur d'un groupe. « Celui-là, du moins, n'est qu'un imbécile. » Octave Loriot n'est, en effet, qu'un imbécile. Les analyses de la critique la plus attentive n'ont pu dégager un autre élément de la pulpe cérébrale de ce romancier pour dames. Il cuisine loyalement son petit navet au macaroni, selon les inusables formules d'Octave Feuillet, de Jules Sandeau, de Pont-Martin ou de Charles de Bernard. Quelques-uns prétendent abusivement qu'il procède du maître de forge. Il est bien trop anémique et frêle pour qu'on le compare à ce Crotoniat, à cet Hercule Farnèse, à ce colosse rhodien de l'imbécilité française. Il en est à peine le Narcisse et n'aurait pas même l'énergie de se noyer dans son image. Mais voilà justement ce qui le rend si précieux aux sentimentales âmes dont il encourage les transports, sans obérer son propre cœur. Car il ne se risque pas au hasardeux négoce des grandes passions. Il borne ses vœux à l'humble trafic des émollients et des préservatifs. C'est un modeste bandagiste pour les hernies inguinales ou scrotales de l'amour. Il continue donc la série des romanciers de confiance de la société correcte, pour laquelle Chaudezaigue a trop d'originalité, Vaudoré trop de sentiments, et le Belitre honnêt trop de profondeur. Du Laurier seul pourrait lui porter ombrage. Mais l'auteur de « Péché d'amour » est un poulain de trop peu de manège, dont on n'est pas encore assez sûr. Demain, peut-être, il va tout casser, tandis qu'on est bien tranquille avec cet honnête Ross, qui n'a jamais renaclé et qu'un strabisme, heureusement convergent, permet de gouverner sans œillères. En conséquence, les personnes vertueuses qu'il a pudiquement lubrifiées de son imagination pendant leur vie se souviennent de lui à l'heure de la mort et le consignent dans leur testament. L'heureux Loriot est le seul romancier qui couche dans des châteaux légués par l'admiration. Le groupe, dont ce propriétaire faisait partie, se massait respectueusement autour de Valérien Denisot, l'officier à monocle de la cavalerie légère du journalisme. Sacré homme de lettres par Dumas fils, le grand archonte, et vraisemblablement né pour autre chose, Denisot est le plus universel raté de son siècle. Raté de la poésie, raté du roman, raté du théâtre, raté de la politique, raté même de l'amour, ayant été cocufié à Lesbos. Ce qui est un cocuage sans espérance. On ne connaît à Paris que le seul Bergerat qui puisse lui être comparé comme manant de l'écritoire. Encore, Bergerat fut-il rageusement vernissé de littérature par son beau-père, Théophile Gautier, dont la voluptueuse bedaine avait, dit-on, des entrailles répulsives pour ce théâtrier et ce fils de prêtre. Denisot, lui, se passe très bien de littérature. Il est un manant sans mélange, un goujat complet. À table surtout, quand il boit du vin du Rhin pour se donner l'air d'un burgrave. Les femmes sont obligées alors de prendre la fuite. Ce vieux Gavroche n'a jamais soupçonné qu'il pût exister autre chose que des filles ou des brelandiers, car il est prince du tripot, comme il est roi de la basse blague, ayant été rétribué de ses services de spadassin de plume et de ses fonctions de torcheur privé de Valdec-Rousseau, dont il eut le génie de déshonorer un peu plus le ministère, par un diplôme de chevalerie et le juteux octroi d'une cagnotte. L'esprit de mots tant vanté de Valérien Denisot est puisé à une source difficilement tarissable. Il possède une bibliothèque alexandrine de calembredaine, d'anas, de recueils grivois, de compilations burlesques. C'est à n'en jamais voir la fin. Il ne tient qu'à lui d'être, 100 ans encore, le plus spirituel de nos chroniqueurs. Par malheur, il se doute un peu de son néant, et cela l'enrage contre l'univers. Personne n'est absous de son impuissance. S'il avait un sou de talent au service de sa désespérée fureur de raté, nul n'échapperait au venin de ses abominables crocs. À l'exception peut-être de quelques turfistes à poigne, accoutumés à rosser des bêtes plus nobles, mais fort capables, après le champagne, de déroger jusqu'à son calotable visage. Probablement fatigué de se porter lui-même, il s'appuyait sur son digne confrère, Adolphe Buzard, connu dans tous les théâtres sous le sobriquet significatif de « Mimi vieux chien ». Ce vieux chien a les allures et la physionomie d'un officier de cavalerie, supérieur en grade à Denisot, mais d'une arme plus lourde. c'est un bonapartiste obséquieux et rêche, à physionomie quelque peu chinoise, plagiaire plein d'impudence, très puissant au Basil et baryton des plus influents. Une vieille pratique, s'il en fut, et du meilleur temps. On assure que Napoléon III a payé plusieurs fois ses dettes. Hélas, le pauvre sire aurait mieux fait de venir en aide à quelques nobles artistes dédaignés, qu'il eussent efficacement protégé de leur encre ou de leur sang contre la hideuse vermine qui le dévora. Le sang de Buzard, si cette matière coulante existe en lui, est un trésor dont il paraît singulièrement avare. Quant à son encre, il l'utilise exclusivement à faire en littérature des travaux d'expéditionnaire. Son zèle de copiste est infatigable. Une de ses prétentions les plus chères est de passer pour un historien littéraire, pour un bibliophile savant et documenté. Naturellement, il est moliériste, comme il convient à tout esprit bas. Jules Vallès est probablement le seul gredin qui ait méprisé Molière. Il est vrai que Vallès était un gredin de talent. Buzard se contente de démarquer le talent des autres, ou plus simplement de les dépouiller en bloc, sans discernement et sans choix, car il est incapable même d'apercevoir le talent. On se rappelle cet important, ce définitif travail, tant annoncé, sur Villon, sur sa vie et son temps, renforcé de pièces inédites et de toutes les herbes de la Saint-Jean de l'érudition. À l'examen, il se trouva que la chose avait été copiée intégralement dans « Le journal des chartes ». Le véritable auteur détroussé, qui avait encore sa montre, par grand bonheur, jugea enfin que l'heure était venue de se montrer et de protester. Il fit donc paraître ses notes, et Buzard, démoli, s'immergea dans un silence malheureusement bien court. Ce qui le tire de pair absolument, c'est le génie commercial. Les statistiques les plus exactes ont établi l'énorme supériorité numérique de sa clientèle décorchée. Wolf excepté, aucun journaliste ne peut se flatter d'une aussi grande puissance d'attraction sur les écus. Ces deux aruspices distribuent la justice, comme Danaé décernait l'amour. Ils sont virginaux et incorruptibles, juste aussi longtemps que cet éventré de Jupiter. Il est vrai qu'Albert Wolff rançonne la terre, et que Buzard, moins équipé, opère surtout au théâtre, où il impose jusqu'à ses maîtresses. Mais sur ce marché, il est sans égal. Et Dieu sait pourtant si Germain Gâteau, l'ancêtre du groupe de Nisot, est un novice en cet art fructueux de s'engraisser du labeur d'autrui. Ce géronte visqueux et blanchâtre, au teint de mastic coupe rosée, est un sous-wolf et s'en félicite. Hebdomadairement, il foire au Basil le tapioca d'une bibliographie gélatineuse et moléculaire dont se pourlèche l'abonné sérieux. C'est lui qui est chargé d'informer 200 000 lecteurs du mouvement intellectuel de la France contemporaine. À ce titre, il est une des grosses influences du Paris actuel et d'interminables théories de débutants implorateurs viennent déposer à ses pieds les fruits imprimés de leur veille. Mais une longue pratique du négoce a blindé son cœur contre les sollicitations éplorées des malfilâtres, et les larmes d'argent sont seules admises à rouler sur le drap funèbre de son impartialité. Ce thaumaturge a découvert des filons d'or dans les poches percées de la littérature. Il est le Péruvien du compte-rendu sympathique et le carrier philosophal des transmutations de la réclame. Marche Noire, voué par nature à l'observation des hideurs sociales, n'avait jamais pu se remettre de l'ahurissement que lui avait causé le premier aspect de cet individu, qu'il avait pu rêver dégoûtant, mais non pas de ce genre, ni de ce degré de dégoûtation. Il avait beau se pincer, se crier à ses propres oreilles, se traiter de triple niais, il n'en revenait pas qu'un intendant de la renommée, un être qui tient sous clé pour le distribuer comme bon lui semble le pain des artistes dont il serait indigne de décroter la chaussure, en lui supposant même la bonté d'un dieu, eut précisément l'ignoble physionomie de Germain Gâteau. C'est la forme sensible que prendrait nécessairement la vulgarité si elle venait à s'incarner pour la rédemption des captifs de la poésie. C'est une méduse de vulgarité. Il y a du notaire de champagne usurier et du vieux garçon de tripot, du marchand de soupe de 20e ordre et du concierge de la place Pigalle qui a vendu sa fille au capitaine retraité de l'entresol. Il y a surtout du laquais insolent et voleur, toléré par des maîtres à peine moins vils dont il aurait surpris les secrets fangeux. La savate, déjà levée, retombe aussitôt devant cette phase décourageante où l'abjection sans mesure s'amalgame visiblement à une imbécilité qu'on est forcé de conjecturer insondable. À droite et à gauche de ses chefs, Marche Noire apercevait quelques jeunes turiféraires en travail d'extase. Hilaire du Poignet, Jules Dutroux, Claude Ormir Desneux, Félix Champignol et Hippolyte Maubec. Tétards de journalistes pirates et de romanciers sans génie. Fleurs écloses du crottin des vieux dans les balayures saliveuses du boulevard, et qu'il faut craindre de grandir en se donnant la peine de les mépriser. Hilaire du Poignet est un héros flûtencule de la guerre du Tonkin, où il se signala comme infirmier. Les troupiers l'avaient surnommé « 5 contre 1 », à cause d'une habitude honteuse qu'il se hâta de révéler à ses contemporains dans un roman autobiographique d'une invraisemblable fétidité. Il l'écrivit à son retour de cette même main qui avait rendu de si grands services et se couvrit ainsi d'une gloire nouvelle que les qualités de son esprit n'avaient pas promise, mais que la vilenie de son âme lui fit obtenir d'emblée. Ce masturbateur a pour spécialité d'attaquer les gens qui ne peuvent pas se défendre. Il fit cette prouesse d'envoyer au frère Philippe le premier exemplaire de son punais roman, où le public est informé que les frères de la doctrine chrétienne furent institués à l'unique fin de pourrir l'enfance. Lâche évident, chourineur probable, empoisonneur par principe, mais incendiaire frigide. Il offre à l'observateur la lividité sébacée d'un homme sur le visage duquel on aurait pris l'habitude de pisser. Jules Dutroux, le moins jeune de ses tétards, donne l'idée d'une vipère qui serait devenue renard, tout exprès pour succomber aux atteintes d'une inexorable alopécie. Ce croûte levé s'est fait journaliste pour avoir des femmes, malgré sa pelade et sa calvitie. Il chroniquaille dans une feuille de boulevard renommée pour le néant exceptionnel de ses virtuoses et distribue sur l'asphalte des sourires à ressort et de dangereuses pressions de sa main suspecte. Sa voix est celle d'un châtré de naissance qui n'a jamais eu besoin d'aucune chirurgie pour devenir chanteur et qui porte ses cisailles dans son cerveau. Dutroux se juge écrivain et parle quelquefois avec un équitable mépris des « voyous de lettres ». Un jour, quelqu'un nomma Claude Omir Desneux à un romancier célèbre. Il s'agissait d'obtenir de ce pontife tout-puissant alors, au Voltaire, qu'il y poussa le débutant rongé de misère, disait-on, et intéressant à tous les points de vue. Le maître se laissa toucher et parvint à imposer au directeur du dit Voltaire un roman de Claude Omir. Celui-ci soutire aussitôt une somme, décampe avec son manuscrit, le publie ailleurs, devient l'ami d'Arthur Meyer qui lui confie une magistrature, et, à la première occasion, il traîne son protecteur dans les ruisseaux. Ce mérovingien est une créature de Dulaurier, qui ne parla jamais de lui donner d'argent, mais qui le pilota de son expérience et l'instruisit à devenir le semblant de quelque chose. La force de Clodomir Desnœuds est peut-être dans son sourire, un sourire affreux qui lui déchausse les gencives et fait apparaître les dents d'un loup. Mais c'est un brave loup, très éduqué, qui rentre ses crocs au surgissement le plus lointain d'une trique possible. Il est aisément reconnaissable à ses redingotes de clergyman, boutonnées de pastilles de réglisse, et à ses faux gilets lacés dans le dos, en velours olive de vieux fauteuil. Ces derniers servilement copiés de l'écuyer, dont le dandysme de haut souteneur l'a fortement imprégné. Il a ceci de commun avec Denisot, qu'il ferait, en temps de terreur, un délicieux proconsul de la guillotine. Tant qu'il pourrait, l'un et l'autre de ces deux envieux couperaient des têtes pour se venger d'avoir été d'heureux impuissants. Marchenoir n'avait pas à craindre que Félix Champignol s'approchât de lui. Ce jeune bandit, à figure d'équivoque larbin, était trop prudent pour se mettre à portée d'une main dont il savait la vigueur. Il n'ignorait pas que Marchenoir avait été l'ami d'un pauvre diable d'homme de lettres dont lui, Champignol, avait procuré la mort tragique en le faisant tomber dans le guet-apens d'un duel. Et même, il avait été sur le point de prendre congé, sous un prétexte quelconque, en voyant entrer le désespéré. Mais on eut trop compris le vrai motif de cette départie, et la politique le contraignit à rester. Quant à Marchenoir, il n'eut pas trop de toute son énergie pour se tenir tranquille, en attendant une occasion meilleure. Quelle danse, alors ! Champignol est un personnage des plus remarquables, en ce sens qu'il a l'air d'un parfait scélérat au milieu d'une bande de coupe-jarrets que sa présence fait ressembler à d'inoffensifs bourgeois. À l'exception d'un acte courageux ou spirituel, on peut dire qu'il est absolument capable de tout. Son effronterie est sans exemple et sans précédent. Il est le seul homme de lettres ayant osé publier un livre plagié de tout le monde, à peu près sans exception, et fabriqué de coupures dérobées aux livres les plus connus, sans autre changement que l'indispensable soudure d'adaptation à son sujet. On s'étonne même que cette audace ait eu des bornes et qu'il n'ait pas donné, comme de lui, le lac de Lamartine ou l'une des diaboliques de Barbé d'Orville. Mais il est facile de concevoir les résultats esthétiques d'une telle méthode. La personne d'un chenapan de cet acabit ne serait pas tolérée un quart de minute dans une société de voleurs de grand chemin où subsisterait quelques regains de virile solidarité. La société des lettres l'accepte néanmoins avec honneur et se sert volontiers pour le mettre à l'aise. Il est offert en exemple à l'émulation des jeunes qui convoitent sa dextérité et naviguent en cohue dans son sillage. Sa force est d'ailleurs attestée par les précautions qu'on est obligé de prendre pour le recevoir. Non seulement il est conseillé de cacher soigneusement tous les papiers de quelque importance, mais il faut encore surveiller les mains agiles du visiteur aussi longtemps qu'il stationne dans un endroit où quelque chose est à prendre. Champfort recommandait aux ambitieux d'avaler un crapaud tous les matins avant de sortir pour se faire la bouche. Champignol a trouvé mieux. Il a passé le matin de sa vie à solliciter les coups de pied au derrière de tous les passants dont la botte pouvait utilement retentir. Et quand il ne les obtenait pas, il inventait le moyen de les carotter. On peut donc tout prédire à un aventurier d'un tel caractère. Les journaux ont raconté la touchante cérémonie de son mariage avec une jeune amie de Madame Valtès. Où n'ira-t-il pas désormais ce jeune vainqueur qui commençait hier à peine en se glissant comme une punaise par les fentes des parquets et pour qui bientôt aucun portail, aucun arc de triomphe ne s'élèvera suffisamment au-dessus du sol. Enfin, Hippolyte Maubec, premier reporter de Paris, ainsi qu'il se qualifie lui-même. Il passe du moins pour l'un des meilleurs flairs et des plus tenaces à la piste, parmi tous ces chiens du journalisme dont l'héroïque emploi consiste à réaliser, dans la vie privée des contemporains illustres, les manœuvres décriées que la loi martiale rétribue d'une demi-douzaine de balles aux alentours présumés du cœur. Ce métier demande avant tout du front et de l'estomac. Quant à l'esprit, il en faut tout juste assez pour voir, à temps, monter la moutarde dans le nez d'autrui, ou pour accueillir les coups de botte des exaspérés, avec le sourire d'un gladiateur de l'information. Cependant, cette place enviée n'arrivant pas à combler ses vœux, Hippolyte Maubec s'improvisa moraliste consultant au journal fameux dont s'imprègnent les républicains honnêtes, où il s'arrange, malgré le voisinage de Sarcey, pour être la plus laide chenille de cette feuille de mauvais figuier qui rend un peu plus visibles les parties honteuses de notre histoire contemporaine. Il est donc d'une espèce de figure syphilitique et foraminée aux glandes cutanées perpétuellement juteuses. C'est précisément le contraire de son croûteux et feuilleté confrère, Jules Dutroux, dont la lèpre est sèche. Quand l'humeur liquide menace de s'indurer, il presse délicatement les pustules réfractaires au suintement et fait jaillir son ordure. Malheur à qui se trouve alors devant son abominable gueule. N'importe. Les boutiquiers et les commis voyageurs, qui lisent assidûment son journal, lui adressent force épîtres anxieuses, auxquelles il répond publiquement avec un zèle patriotique à peine surpassé par le ridicule inouï de son ton d'augure. Car ce vénéneux est pour la vertu et ce hanteur de tripot pour la probité. Redouté comme une mouche de pestilence et rempli de charbonneuses notions sur la conjecturale moralité des uns et des autres, on lui abandonne sans discussion toute l'autorité qu'il veut prendre. Et le drôle, immonde, en profite pour organiser à son usage une sorte de royauté de l'espionnage et de l'intimidation. Il donne ainsi des mots d'ordre à la presse entière, organise le scandale, décrète le bruit, promulgue le silence, et, aussi savant délateur que redouté complice, fait tout trembler de son omnipotente ignobilité. Et c'est une juste royauté. Une trois fois légitime primatie. Nul. Pas même Albert Voss et Valérien de Nizot. N'étant plus bas, plus fancheusement coté, plus dénué de talent, plus invulnérable à un sentiment d'ordre élevé, plus impossible à calomnier. Chapitre 60. Est-ce bien tout ? Se dit Marchenoir en achevant ce démembrement. Les quelques comparses que j'entrevois encore ne me paraissent pas être du bâtiment. Ils ne sont là que pour faire nombre et pour l'exultation de la vanité parvenue de Beauvivier. Quand je pense que voilà pourtant les nourriciers de l'intelligence, ils sont presque tous décorés. Dieu me soit en aide. Nous allons avoir la table ronde. Que vais-je devenir au milieu de ces chevaliers ? Sur cette réflexion, une tristesse immense lui vint et un découragement sans bornes. Il éprouva, plus atrocement que jamais, son impuissance. Privé du ressort de la richesse, amoureux de toutes les grandeurs conspuées, et seul contre tous. Quel destin ! Ah, s'il se fût simplement agi d'un combat physique, en pleine caverne, il se sentait une vaillance à les défier et à les massacrer tous. Au moins, il aurait la consolation de leur faire acheter sa peau terriblement chère. Cette idée vaine le transportait. Il se fut présenté en chevalier errant, sans bannière et sans écu, devant ces hauts patentés de la ripaille et du brigandage. Il les eût affrontés au nom de la Vierge et des saints anges, pour l'honneur de la beauté qu'ils ont reniée, et pour la vengeance du faible dont ils sont les massacreurs. Expirer sous la multitude des canailles, il le faudrait bien, mais il expirerait dans la pourpre d'un tapis de sang. Au lieu de cette mort superbe, il fallait compter sur l'ignoble et interminable agonie moderne de l'artiste pauvre qui ne veut pas se déshonorer. La misère, l'aristocratie de l'esprit et l'indépendance du cœur, ces trois faits épouvantables qu'il avait baisées dans son berceau, avaient marqué, pour lui, la prédilection de leurs entrailles de bronze, par un luxe peu ordinaire de tous les dons de naissance qu'elles prodiguent à leurs favoris. Le pauvre Marchenoir était de ces hommes dont toute la politique est d'offrir leur vie, et que leur fringale d'absolu dans une société sans héroïsme condamne d'avance à être perpétuellement vaincu. Le courage le plus divin n'y peut rien faire. Le sublime Gautier, sans avoir, serait aujourd'hui prestement coffré, et c'était déjà fièrement beau que l'inséductible pamphlétaire n'eût pas été jusqu'alors incarcéré dans un cabanon. Il vit, dans une clarté désolante, l'insuffisance inouïe de son effort et la terrifiante inutilité de sa parole dans un monde si réfractaire à toute vérité. Il lui sembla qu'il était sur une planète défunte et sans atmosphère, semblable à la silencieuse lune, où les tonitruantes clameurs ne feraient pas le bruit d'un atome et ne pourraient être devinées que par l'inaudible remuement des lèvres. Sa collaboration au Basile était décidément une chimère, un rêve insensé, qui ne tiendrait pas trois jours devant le préjugé commercial de ne rien changer à l'ordinaire des gargotes intellectuelles, où le public moderne est accoutumé à s'empiffrer. D'ailleurs, sa solitude introublée au fond du salon, où tout le monde l'avait laissé fort tranquille. Immédiatement après l'effusion postiche du premier instant, lui montrait assez les abîmes séparateurs qu'aucune considération n'aurait pu le déterminer à franchir, pour descendre confraternellement jusqu'à ses asticots de l'intelligence. Il remarquait, depuis un instant, l'impatience hautement exprimée de quelques-uns et l'inquiétude manifeste de tous. On attendait un dernier convive pour se mettre à table, et il fallait que celui-là fût considérable, à en juger par l'anxieuse perplexité de l'amphitryon. La porte s'ouvrit enfin, et Marchenoir vit apparaître celui devant qui tout journaliste s'efface, le folliculaire infini, le très haut Minos de l'enfer des lettres, le sultan sublime de la critique théâtrale, l'indéfectible Manitou du sens commun, Mérovée Beauclerc. « Rien ne me sera donc épargné, » gémit en lui-même le solitaire accablé. « Je l'avais oublié, celui-là. Si j'avais pu prévoir sa venue, Beauvivier ne m'aurait pas facilement embauché pour sa gamelle. Maintenant, me voilà pris au traquenard de cet infernal dîner, et je suis bien forcé de prendre patience. Mais, tonnerre de Dieu, qu'on ne m'embête pas !» Mérovée Beauclerc est un normalien, comme Tinville, comme Prévost Paradol, comme Taine, comme Abou, dont il fut l'intime. Il appartient à l'illustre fournée de ces pédants universitaires à qui la France est redevable de la seule turpitude que les doctrinaires et les républicains lui eussent laissé à désirer. L'optimisme suprême du pion de fortune. Seulement, Mérovée Beauclerc les surpasse tous. Il est le pion sérénissime, inaltérable, absolu. On ne voit à lui comparer qu'Ernest Renan. C'est l'unique parangon que le destin lui ait suscité. L'auteur de « La vie de Jésus » est en effet une outre de félicité parfaite. Gonflé des dons de la fortune, qui ne s'interrompit jamais de le remplir, il offre à l'observation le cas exceptionnel d'une hydropisie de bonheur. Réputé grand écrivain sans avoir jamais écrit autrement que le premier cuistre venu, renommé philosophe pour avoir ressassé de centenaires dubitations et critiques vantées dans tous les conciles du mensonge. On l'adore dans les salons et on le sert à genoux dans les antichambres. Il est le dieu des esprits lâches, le souverain seigneur des âmes naturellement esclaves, et le psychologue du laurier se liquéfie devant ce soleil de dilettantisme dont il raconte la sensibilité. Si l'histoire du XIXe siècle est jamais écrite, ce mot inouï sera recueilli comme une gemme documentaire d'un inestimable prix. On s'en contentera pour nous juger tous, hélas. Mais qu'importe cet avenir à l'heureux Bouddha du Collège de France, dont le ventre plein de délices est caressé par de tels Éliassins. Mirabeau Beauclerc est à peine un peu moins léché que cette idole. Immédiatement au-dessous d'elle, il est le plus démesuré parmi nos pontifes. Ce serait le méconnaître, néanmoins, de s'informer d'une œuvre quelconque sortie de lui. Beauclerc n'est ni poète, ni romancier, ni même critique. Il n'est pas davantage historien ou philosophe. Il n'a jamais fait un livre ou quoi que ce fût qui y ressemblât. Il est le pion sans épithète, le pion du siècle, le moniteur et le répétiteur de la conquérante médiocrité. Quelques-uns l'ont inexactement dénommé « le bon sens fait homme », ce qui impliquerait une attitude de raison, outrageante pour ses contemporains, et démentie par l'universelle popularité dont il pâture depuis 20 ans le trèfle magique au plus bas endroit de toutes les plaines. C'est le sens commun qu'il faut dire, si l'on tient à supposer une incarnation. À la réserve d'Albert Wolff, qui manquait inexplicablement à ce patibulaire congrès, il est le seul exemple d'un homme ayant réussi à confisquer une influence à peu près illimitée sans avoir jamais rien fait qui pût servir de prétexte à l'usurpation de son trépied. Les oracles subalternes, mentionnés plus haut, sont beaucoup moins étonnants. D'abord, leur crédit est moindre et presque nul en comparaison du sien. Puis, ils ont l'air d'avoir tiré quelque chose de leurs intestins. Les Dulaurier, les Sylvain, les Chaudes-Aigues, les Vaudoré, les Tinville même, ont au moins la configuration extérieure de probables individus. Ils paraissent avoir écrit, et le public abruti qui les adore pourrait justifier la bave de son culte en désignant les fantômes de livres signés de leur nom. Beauclerc ne possède absolument rien que le sens commun, où il passe pour n'avoir jamais eu d'égal, et il ne serait rien du tout s'il n'était le premier des pions. Mais c'est assez, paraît-il, pour la dictature des intelligences. Nestor de Tinville, avec toute sa sagesse, en est écrasé. C'est que Mérovée n'a besoin d'aucune morgue, ni d'aucune solennité pour accréditer sa parole. Il est tellement arrivé qu'il lui suffit de se montrer et d'annoncer n'importe quoi pour que l'allégresse éclate. Dans les conférences publiques, qui ont si démesurément agrandi sa gloire, c'est une espèce de prodige, non constaté jusqu'à lui, que le néant du rabâchage convient applaudir. Ce fait paradoxal et confondant pour des étrangers inavertis de notre effroyable dégradation est tellement inouï qu'on ne peut le mentionner exactement sans avoir l'air d'un calomniateur. Le sens commun, dont la nature est d'étendre des tapis sous les pieds des foules, a ce privilège mythologique de devenir toujours plus fort en s'abaissant et de ramasser par terre ses victoires. Depuis qu'il existe, Beauclerc s'est rapetissé et abaissé avec une constance de volonté qui eût suffi à un autre homme pour s'envoler par-dessus les astres. Et il est parvenu si bas qu'il a l'air de s'y perdre comme au fond des cieux. Il plane à rebours du rez-de-chaussée de l'abîme et sa force attractive est identique à la loi de gravitation. c'est sa proie qui fond sur lui. Il n'a qu'à s'entr'ouvrir pour recevoir les matières pesantes et les déjections. Il en est à n'avoir plus besoin de connaître le moins du monde ce dont il parle, et à ne plus lire du tout les livres qu'il a la prétention de juger dans ses harangues. Deux ou trois bas-bleus sacristains, voués à son tabernacle, lisent à sa place, et leurs suggestives notules suffisent à cet intuitif. Alors, quelle joie de déshonorer une belle œuvre, quand il s'en trouve, de la vautrer dans la boue de son analyse, de la descendre au niveau du groin de son auditoire. Et le journaliste est à l'image du conférencier. Il apparaît, ici aussi bien que là, comme le châtiment, la flétrissure infinie, la tare vivante d'une société assez avachie pour ne plus avoir conscience des attitudes qu'on la force à prendre et des vomissures qu'on lui fait manger. Ce Beauclerc n'a-t-il pas eu l'impudence de se vanter, dans le plus incroyable des feuilletons, d'être le minotaure de la critique de théâtre et de percevoir d'exacts octrois de fornication sur les débutantes, forcées de lui passer par les mains, sous peine d'un succès fatal? Il semble qu'une telle déclaration aurait dû attirer à son auteur, en n'importe quel lieu du globe, une tempête de huées, une clameur de réprobation à décrocher tous les luminaires du firmament. On l'a généralement applaudi, au contraire, et secrètement envié. Ce faquin nage avec sérénité dans l'ordure liquide, en laquelle il a le pouvoir de transmuer tout ce qu'il approche. C'est le Midas de la fange. Son hideux mufle, qu'on pourrait croire façonné pour inspirer le dégoût, ajoute probablement au vertige de sa fascinante crapule. On l'a souvent comparé à un sanglier, par un impardonnable oubli de la grandeur sculpturale de ce sauvage pour chasser des dieux. C'est une charcuterie, et non pas une venaison. La bucolique dénomination de Gorée est déjà presque honorable pour ce locataire de l'ignominie. Mais les bourgeois se complaisent dans cette figure symbolique de toutes les bestialités dont leur âme est pleine, et qu'ils présument assez épiscopales d'illustration pour les absoudre valablement de leur trichinose. Évidemment, le dîner de Beauvivier eût été raté sans ce dernier convive, que Wolf seul eût pu remplacer. Toutes les catégories d'influence par la plume étaient maintenant représentées à l'auge du nouveau satrape, depuis les mastodontes jusqu'aux acarus. Il ne restait qu'à se mettre à table. Chapitre 61. La victuaille fut copieuse et d'une culinarité sublime. Pendant quelque temps, on n'entendit que le bruit des mandibules et de la vaisselle, accompagné en dessous du gargouillement hoqueté de la commençante déglutition des vieux. Une parole susurrée ondulait vaguement autour de la table immense, préliminaire d'une conversation générale qui cherchait à se préciser. Des interjections brèves, des exclamations suspendues, de timides interrogats, de préhistoriques facéties et des calembours tertiaires, faufilait peu à peu la rumeur joyeuse, en attendant qu'elle éclatât comme une fanfare sous l'excitation des puissants vins. Beauvivier, flanqué à sa droite de Marchenoir et tamponné à sa gauche de Chaudesaigues, s'efforçait assez vainement d'établir, à travers sa propre personne, un courant d'électricité cordiale entre ses deux voisins immédiats. Marchenoir, impraticable autant qu'un créneau couvert de givre, répondait, en mangeant, avec une concision boréale qui faisait tousser Chaudesaigues. Néanmoins, Properce, aussi sagace que patient, calculait que l'anachorète finirait par s'allumer, comme un pyrophare, à l'oxygène ambiant de la sottise générale, et qu'alors il éructerait un de ces paradoxes véhéments dont on le savait coutumier, et dont la promesse, glissée sournoisement à quelques oreilles, faisait partie du menu de cet étonnant festin. Il avait même donné de machiavéliques instructions pour qu'on fût très attentif à ne pas le laisser expirer de soif. Après pas mal de bourdonnements et d'incohérences de propos, la conversation finit par se fixer, à l'autre bout de la table, sur l'événement de la veille dont tous les journaux avaient retenti. Il s'agissait du duel, aussi malheureux que ridicule, d'un confrère catholique assez indépendant, par miracle, et assez courageux pour avoir écrit un livre contre la société juive, mais assez inconséquent pour avoir accepté de croiser le fer avec l'un des plus décriés représentants de cette vermine. Or, ce duel avait été des plus funestes. Le juif avait simplement assassiné le chrétien aux applaudissements unanimes de la fripouille sémitique, et la justice criminelle, pénétrée de respect pour cette potentate, n'avait pas informé contre l'assassin. Il va sans dire que nul parmi les convives ne gémissait amèrement sur la victime. La plupart, subventionnés par la synagogue ou valets de cœur de la haute société juive, auraient estimé de fort mauvais goût de s'attendrir sur le juste châtiment d'un énergumène qui avait poussé l'insolence jusqu'à compisser le veau d'or. On ne pouvait pas exiger, par exemple, que des romanciers aussi domestiqués que Vaudoré ou du Laurier s'indignassent de ce qui faisait la joie de leur maître. On discutait donc uniquement l'incorrection de cette rencontre au point de vue du sport, sans qu'une pensée ou un sentiment quelconque eussent la moindre occasion de se donner carrière dans le bavardage. Beauvivier espéra prématurément que son sauvage allait s'allumer. « Que pensez-vous de cette affaire ?» lui demanda-t-il. La question venant de ce juif parut singulière à Marchenoir, qui comprit qu'on voulait le faire poser, et qui décida sur-le-champ de déconcerter de son calme le plus inquiétant le scepticisme malicieux de son questionneur. « Je pense que c'est une sotte affaire. Que voulez-vous que je dise d'un malheureux homme qui démontre jusqu'à l'évidence, en plusieurs centaines de pages, que les Juifs sont des voleurs, des traîtres et des assassins, une race de pourceaux illégitimes engendrés par des chiens bâtards, et qui se hâte aussitôt après d'accepter un duel avec le plus vil d'entre eux. Car ce pauvre diable a choisi, tout le monde en conviendra, l'adversaire le plus capable de l'égorger de ridicule, en supposant que l'autre manière n'eût pas réussi. Le courage de cette absurde victime est d'ailleurs incontestable. Son livre, quoique mal bâti et plus faiblement écrit, lui faisait assez d'honneur. Il a été mal payé d'en désirer davantage. Quant aux circonstances mêmes du duel, elles me sont indifférentes. Le caractère connu du meurtrier autorise le moins informé des Parisiens à préjuger hardiment l'assassinat. Seulement, il est heureux pour lui que je ne sois pas le frère du défunt. » Cela fut débité d'un ton exquis, dont Marchenoir s'étonna lui-même. « Ils veulent me faire bramer comme un jeune daim, » pensait-il. « Je vais leur dire tout ce qu'ils voudront, du même air que je commanderai une portion de tripe dans un restaurant. »« Que feriez-vous donc ?» interrogea à son tour Denisot, qui passe généralement pour un oracle en matière de point d'honneur. « Je l'assommerai, sans phrase et sans colère, rien qu'avec un bâton. » répondit suavement Marchenoir en regardant son assiette pour ne pas voir le monocle du plus spirituel de nos chroniqueurs. L'attention devint générale. Le réfractaire excitait visiblement la curiosité. Il se souvint, par bonheur, du complet triomphe dont Beauvivier l'avait assuré. La veille, en le congédiant, et ce fut avec une vigueur extraordinaire qu'il serra ses freins. « Si je vous entends bien, » dit alors le vicomte de Tinville, non sans quelque hauteur, « Vous rejetez absolument la coutume du duel.
Absolument. Voudriez-vous m'apprendre, monsieur, comment je pourrais ne pas la rejeter?
Sans parler d'une certaine consigne religieuse qui serait peu comprise et que je n'aurais probablement pas le courage de vous expliquer, il y a ceci qu'on oublie trop. Le duel est une prouesse de gentilhomme, et nous sommes des goujats. Des goujats sublimes, peut-être, mais enfin, d'irrémédiables goujats. À l'exception de quelques rares personnages, semblables à vous, dont les ancêtres escaladèrent autrefois les murs de Jérusalem ou d'Antioche. On ne voit pas que nous différions sensiblement de ces croquants à qui l'on donnait deux trigues énormes et le champ clos d'un large fossé pour vider leurs querelles. Je vous avoue que le ridicule d'une épée dans la main de gens de notre sorte a toujours été terrassant pour moi. Il serait donc parfaitement inutile de me proposer un duel. Si c'est là votre pensée, elle est admirablement judicieuse et fait le plus grand honneur à votre pénétration. Je veux même vous déclarer qu'à mes yeux, le véritable outrage commencerait précisément à cet instant-là. J'estimerais qu'on me regarde comme un farceur de catholique ou comme un imbécile, et mon courroux éclaterait, à la minute, d'une manière tout à fait surprenante. Mais cependant, monsieur le réactionnaire, brailla aussitôt Rieux Pérou, dans une hilarante tonique de pur gascon, qui faillit déchirer en deux le vélarium de la gravité générale. Vous êtes assez violent, il me semble, quand vous attaquez vos confrères, et il serait peut-être juste que vous ne leur refusassiez pas les réparations qu'ils sont en droit de vous réclamer quand vous les traînez dans la boue. C'est trop commode, vraiment, de se retrancher derrière le catholicisme pour échapper à toutes les conséquences de ses actes et de ses paroles. Marche Noire, qui sirotait en souriant un verre du plus délicieux de tous les châteaux, et que la claironnante cocasserie de ce marquis des Marches de la Pouille intéressait, lui répondit en douceur parfaite. Si j'étais réactionnaire, comme vous dites inexactement, mon très doux maître, vous me verriez aussi ardent que vous-même, à toutes les passes d'armes et à tous les genres de tournois. C'est au contraire parce que je suis le plus dépassant des progressistes, le pionnier de l'extrême avenir, que je condamne ces pratiques surannées. Vous affirmez que je suis violent. Dieu sait pourtant si je me réfrène, car je pourrais l'être bien davantage. Quant aux belles âmes que mes écritures affligent, qui les empêche de m'affliger à leur tour de la même sorte? Je serais le plus inique des éreinteurs si je me fâchais d'une riposte, même imbécile. Je taille mes projectiles avec le plus d'art que je puis, et je me ruine à choisir, pour cet usage, les plus dispendieuses matières. L'un de mes rêves est d'être un joaillier de malédiction. Mais je n'exige pas que mes plastrons soient eux-mêmes des lapidaires et qu'ils se mettent en boutique. On fait ce qu'on peut, et j'aurai mauvaise grâce à contester le choix d'une arme défensive à n'importe quel chenapan dont je serai l'agresseur. Si je poursuis un putois l'épée à la main et qu'il me combatte avec le jus de son derrière, c'est absolument son droit, et je n'ai rien à dire. Il est loisible à chacun de publier que je suis un bandit, un faussaire, un va-nu-pied, un proxénète, et même un idiot. J'accueille ces vocables avec une indifférence dont vous ne sauriez avoir une juste idée. Par exemple, il ne faut pas m'en demander davantage, car j'oppose aux voies de fait la plus insolite humeur. Je mourrai certainement sans avoir compris ce que signifie le mot de « réparation », au sens où les duellistes veulent qu'on l'entende. Je ne défends pas d'ailleurs aux mécontents de m'apporter leur museau, s'il leur paraît expédient d'opérer ce transit. Mon domicile est connu de tout le monde, et nullement pourvu de retranchements catholiques ou autres. Ma porte s'ouvre facilement, aussi bien que ma fenêtre.
Mais je ne conseille à aucun brave de choisir ses plus chers amis pour me les expédier comme témoins. Je leur accorderai environ 3 minutes de courtoisie, à l'expiration desquelles il se pourrait que je les renvoyasse assez détériorés pour les guérir quelque temps du besoin d'embêter les solitaires dans leurs ermitages. Léonidas, anciennement maltraité par le pamphlétaire, et que plusieurs mots de ce persiflage sérieux avaient clairement cinglé, ouvrait la bouche pour parler encore, quand Beauvivier l'arrêta d'un geste. « Pardon, mon cher vieux Pérou, le débat est clos. Vous avez forcé M. Marchenoir à renouveler des déclarations déjà anciennes, et que nous avons tous entendues depuis longtemps. Vous n'espérez pas, sans doute, l'amener, pour vous complaire, à modifier ses vues ou ses sentiments. Notre convive est un homme exotique et d'un autre siècle. Il a d'autres idées que nous sur l'honneur. Mais cette divergence est sans portée, puisque son intrépidité personnelle est hors de cause. À ce dernier point de vue même, je crois que ces chroniques seront d'un utile scandale en tête du Basile. Tenez, si personne n'y voit d'inconvénient, et que l'auteur veuille bien y consentir, ajouta-t-il en se tournant vers son voisin, je serai d'avis qu'il nous lut tout à l'heure l'article de début que je fais paraître après-demain et dont les épreuves sont justement sur mon bureau. Je crois, messieurs, que votre surprise ne sera pas médiocre. Avez-vous quelque répugnance à nous donner ce plaisir intellectuel, monsieur Marchenoir ? Celui-ci hésita une minute, puis se décida. Il sentait vaguement que déjà Beauvivier cherchait une occasion de le compromettre et de lui casser les reins, en le rendant impossible, puisqu'il le poussait à lire cette philippique, où les 2/3 des convives étaient plastronnés. Mais la seule pensée d'un tel risque le détermina. Étant de ces fiers chevaux qui s'éventrent sur les baïonnettes en hennissant de la volupté de souffrir.